Bonsoir, un hommage à la une des informés de France Info ce soir. Rachita, disparue à 59 ans, victime d'une crise cardiaque. Le chanteur qui avait marié le rock avec le rail aura marqué son époque, vous le verrez avec cette chanson Douce France. Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, s'attaque à la surpopulation carcérale. L'objectif, soulager les prisons de 8000 détenus. Pendant ce temps, l'affaire Benalla revient sur le devant de la scène, encore et toujours avec de nouvelles auditions au Sénat. Une première dans l'histoire du Parlement européen qui a entamé une procédure à l'encontre de Viktor Orban et de la Hongrie. Les lignes de front se dessinent en vue des élections européennes. Nous évoquerons cette autre initiative des eurodéputés, décidément ils travaillent, qui réclament des droits d'auteur aux géants du net, les GAFA, il était temps. Et je vérifierai peut-être, messieurs, dames, votre niveau en anglais en fin d'émission, si on en a le temps. Voici donc nos invités. Bonsoir à vous, Audrey Goutard.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à France 2, présentatrice de l'Instant T sur France Info. À mes côtés également, bonsoir Marie-Virginie Klein, communicante associée du cabinet Tilder. Invité également Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir Jean-Sébastien.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver, cofondateur et directeur de la publication Atlantico. Et également invité, bonsoir Nicolas Bouzou.
Bonsoir.
Économiste, essayiste, éditorialiste, fondateur d'Astérès et du Cercle de Bellem. Auteur, il faut le préciser, de cet ouvrage La comédie inhumaine ou comment les entreprises font fuir les meilleurs, paru aux éditions avec Julia de Funès, donc paru aux éditions de l'Observatoire. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT. Alors c'est l'histoire d'une chanson qui datait de la guerre et d'un groupe populaire, alors à mi-chemin entre rock et rail, et qui avait remis au goût du jour cette chanson en 1986 dans un contexte politique quelque peu tendu. Souvenez-vous, extrait.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Alors Rachita, décédée donc aujourd'hui à l'âge de 59 ans, Audrey Goutard, il y avait un peu d'ironie dans cette interprétation du Douce France de Charles Trenet qui lui, en 1943, soutenait les Français expatriés de force par la guerre.
Mais oui, bien sûr, de l'ironie et en même temps... il a remis cette chanson au goût, comme on dit, au goût du jour, parce que en fait, ça a montré à un moment donné, on n'était pas encore à l'époque des Black Blamber, hein, mais ça a donné à cette époque l'idée qu'effectivement, on pouvait être français, arabe d'origine et avoir des références classiques, hein, finalement. Il a été la chercher, cette chanson.
Absolument.
Donc voilà. Et d'ailleurs, je voulais juste rappeler une phrase que Rachita disait régulièrement, c'est français tous les jours, algérien pour toujours. Oui. Pour ce jeune type qui était arrivé à l'âge de 10 ans en France. Voilà.
Alors Jean-Sébastien Ferjou, c'était une chanson à usage politique, hein. Des disques avaient même été distribués à l'Assemblée nationale aux députés. Que reste-t-il de cette époque, de celle de Touche pas, mon pote?
Il reste des illusions brisées, parce que je crois qu'il n'y avait pas que de l'ironie dans la chanson de Rachita, il y avait ce qu'évoquait Audrey, justement, la volonté de dire, mais oui, nous sommes aussi français, et malheureusement, ça n'existe plus beaucoup, ça existe certainement chez des tas d'individus en France, mais chez ceux qui prennent la parole en public, malheureusement, on entend plutôt des revendications communautaristes ou séparatistes, et il n'y avait pas que Rachita, d'ailleurs, moi je me souviens plutôt d'Yaraya que de Douce France, qui est une chanson qui était plus entêtante, mais bref, c'est un autre point. Non, mais c'est pas totalement anecdotique non plus, parce qu'il y a eu toute la vague des, il y avait Raled aussi, il y avait des tas d'artistes justement, et le rail s'intégrait à la culture française. Maintenant, on n'en est plus du tout là. Maintenant, on en est, ça fait déjà un certain nombre d'années, peut-être une dizaine d'années. Souvenez-vous du match France-Algérie, où il y avait eu les drapeaux algériens. Mais voilà, on en est dans des revendications séparatistes. Et encore une fois, qui ne correspondent pas, je pense, nécessairement à la majorité des gens étant eux-mêmes ou dont les parents ou les familles étaient d'origine étrangère, mais qui correspondent au discours public. Et ça, c'est profondément dommage et on regrette amèrement Rachita.
À vous regretter cette cette période également. Si l'on compare le contexte de l'époque, alors Marie-Virginie Klein, vous étiez jeune à l'époque, j'imagine. Je le souligne quand même pour ceux qui nous écoutent. Alors c'était l'époque des
nous,
charters.
Nous, on n'était pas très vieux non plus.
Pas très vieux non plus, non. Quoique, c'était l'époque des charters de Charles Pasqua qui ont fait polémique. Alors et aujourd'hui, il y a le débat sur les migrants qui hantent l'Europe. Est-ce que l'opinion, selon vous, s'est raidie sur toutes ces questions d'immigration et plus largement de métissage?
Moi, le sentiment que j'ai eu en apprenant la nouvelle de la mort de Rachida, c'était est-ce que finalement c'était pas le symbole d'une intégration nationale qui aujourd'hui est mise en danger de tous côtés? Voilà. Est-ce que cette image, Rachida, aujourd'hui, c'est pas à contre-courant d'un double discours qu'on entend d'un côté un discours assez communautaire et d'un autre côté un discours populiste qui gagne du terrain et qui met vraiment en danger cette intégration nationale.
Oui, vous interrogez là-dessus ce soir Nicolas Bouzou. Rachida était né en Algérie, il faut le rappeler, il est arrivé en France à l'âge de 10 ans. Il était ouvrier avant d'être un artiste à succès. Il y a eu la marche pour l'égalité contre le racisme, c'était du temps de Mitterrand, 1983, on était effectivement très jeunes. Est-ce que cet engagement, selon vous, à l'époque, aura fait bouger les lignes?
Ah oui, je pense qu'il y a beaucoup moins de racisme aujourd'hui qu'à l'époque, et il y a beaucoup moins de racisme dans le monde en général que c'était le cas à l'époque. Donc je pense que ça a été efficace. Aujourd'hui, le problème est pas celui-là, mais justement la Douce France de Rachida, ça résonne de façon pertinente, je trouve, parce que au fond, quel est le sujet de l'immigration? Selon moi, la France est un pays qui a vocation à accueillir des immigrés. On a besoin d'immigration sur le plan économique et de toute façon, sur le plan moral, la France est un pays qui se doit d'être ouvert.
Vous tenez ce discours-là, vous, l'économiste, ce soir. Hein.
On a besoin de cette immigration-là. Oui. Absolument, complètement. Surtout en ce moment où 40% des PME n'arrivent même pas à recruter. Donc, bien sûr, on a besoin de ça. Mais en même temps, les immigrés ont bien évidemment un devoir. Et là, au fond, je me situe dans la tradition de Renan au 19e siècle. Le devoir des immigrés, c'est d'adhérer à un certain nombre de valeurs du pays qui les accueille. Il me semble que ce discours, il est audible par tout le monde. Je pense que tout le monde peut être à peu près d'accord avec ça. Et au fond, il n'est pas tenu clairement par le pouvoir politique. Qu'est-ce que ça veut dire de façon concrète? Pour être tout à fait concret, ça veut dire que les immigrés sont les bienvenus chez nous, quelle que soit leur origine. Mais en revanche, en France, il y a des choses avec lesquelles on transige pas. L'égalité homme-femme, par exemple, c'est quelque chose qui ne souffre même pas du début d'une discussion dans notre pays. Enfin, qui ne devrait pas, en tout cas.
Voilà donc pour cet hommage au regretté Rachida Taha, artiste engagé, décédé donc à l'âge de 59 ans, 20h10 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Claire Flochel.
Richard Ferrand est le nouveau président de l'Assemblée nationale, élu en fin d'après-midi avec une faible majorité, 254 voix sur 484. Le député du Finistère succède à François de Rugy au perchoir. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a présenté son plan prison, plan qui devrait permettre, selon elle, de réduire d'environ 8000 le nombre de détenus. En juillet, un nouveau record a été battu dans les prisons françaises avec le chiffre de 70 710 détenus, alors qu'il n'y a que 60 000 places. Le Parlement européen demande des sanctions contre la Hongrie au Conseil européen. Bruxelles constate de multiples violations des principes démocratiques et des droits de l'homme depuis l'arrivée au pouvoir du parti du Premier ministre Viktor Orban. Qu'il s'agisse de l'indépendance, de la justice, de la liberté de la presse ou encore du sort réservé aux migrants, une décision saluée par l'Élysée cet après-midi. L'Église catholique allemande se dit honteuse. Ce soir, la presse a divulgué aujourd'hui un rapport révélant des milliers d'abus sexuels sur mineurs. Près de 3700 enfants abusés par des prêtres entre 1946 et 2014. Et l'Église outre-Rhin aurait sciemment caché les faits. Et puis le gouverneur de la Géorgie décrète à son tour l'état d'urgence en prévision de l'arrivée de Florence. L'ouragan placé en catégorie 4 sur 5 doit atteindre demain ou après-demain la côte est des États-Unis. La capitale fédérale Washington DC, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud et maintenant la Géorgie sont donc en état d'alerte maximale.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous allons évoquer à présent le plan pour la pénitentiaire, mais je crois que Jean-Sébastien Ferjou veut répondre à Nicolas Bouzou.
Oui, parce que j'aime beaucoup, souvent, les thèses libérales de Nicolas Bouzou, mais sur l'immigration, je pense que la présentation qu'on est faite, elle est un peu caricaturale, parce que ça se pose pas au niveau des principes, ça se pose au niveau de la réalité. Déjà, d'un point de vue économique, c'est plus contestable qu'il n'y paraît. Alors, si on raisonne en termes totalement macro-économiques, peut-être est-ce le cas, mais si on est un individu en particulier, ou une catégorie de population en particulier, c'est pas vrai. On l'a vu cet été au Royaume-Uni, à cause du Brexit, il y a une pression pour les entreprises qui s'exercent sur les bas salaires. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'immigration. immigrés. Et donc, pour les Britanniques qui étaient mal payés, c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est pas une bonne nouvelle pour les entreprises, effectivement, mais tout dépend quand même du point de vue où on se place. Et après, évidemment, moi, je conteste absolument pas que la France soit un pays qui a accueilli des tas de populations étrangères, mais la question du nombre, elle se pose. Et puis, il y a aussi la question de la démocratie, tout simplement, parce que dire, on devrait dire que c'est comme ça, il me semble qu'il y a quand même une majorité, pas seulement de Français, y compris quand on est libéral. D'ailleurs, il faudrait peut-être pas que le libéralisme divorce trop du peuple ou divorce trop de la démocratie. Il y a un essai très intéressant qui vient d'être publié là-dessus.
Ouais.
Mais voilà, je trouve que c'est très bien de défendre une vision ouverte et pas pour le principe fermé, mais
plutôt généreuse,
c'est un peu plus complexe.
Nicolas Bouche, vous êtes
mais la générosité par en soi.
Je suis très content que vous disiez que je suis généreux et ouvert, mais je ne me serais pas adressé ce type de compliment parce que ce que j'ai bien dit, c'est qu'il y avait des principes qui devaient être respectés, qui ne le sont pas. Alors je vais être encore plus précis pour bien me faire comprendre. Quand j'entends dire de certains personnels soignants qu'il y a des familles qui refusent de se faire soigner par des femmes dans les hôpitaux, c'est quelque chose, mais qui me semble, mais avec lequel jamais nous ne devrions transiger. Donc vous voyez. Je pense que
on peut aussi avoir
des principes fermes.
Ouais. Allez, bon, on va évoquer la pénitentiaire à présent. Sur 187 établissements pénitentiaires, donc 50 connaissent un taux d'occupation supérieur à 150%. Nicole Bénoubet a présenté en Conseil des ministres ce matin un plan censé de réduire de 8000 places le nombre de détenus. La garde des Sceaux invitée de France Inter ce matin.
Que ça vous
Je n'ai pas
dessus.
Peur, parce que nous affirmons que toute infraction connaît une sanction. Et donc, toute infraction aura une peine. Ce que nous disons simplement, c'est qu'il faut faire attention et donner les moyens aux magistrats, aux tribunaux correctionnels, quand ils prononcent les peines, il faut leur donner les moyens de prononcer des peines qui soient adaptées à la réalité de la situation de la personne qui est prévenue et condamnée.
Audrey Goutard, qu'est-ce qu'elle nous dit en creux, la ministre? Que la justice serait la main un peu trop lourde?
Surtout que la justice aurait la main trop lourde, mais surtout que la justice, on a une façon d'appliquer les peines qui datent du 19e siècle. La vérité, c'est que la ministre aujourd'hui va proposer effectivement qu'on développe les travaux d'intérêt général plutôt que l'incarcération, etc. C'est très bien, sauf qu'on n'a jamais mis de dispositif en place sérieux. Il faut voir quand même que nos voisins, par exemple, les Hollandais, sont en train de fermer toutes leurs prisons. On se rend compte aujourd'hui que c'est une aberration.
Qu'est-ce que vous voulez dire, fermer toutes les prisons
Ils ont fermé la moitié de leurs établissements pénitentiaires.
Et il n'y avait plus assez de monde incarcéré.
Parce qu'il n'y avait plus assez de monde à incarcérer, parce qu'ils ont réfléchi en amont, c'est bien les pays protestants, hein, de façon très très perspicace. Ils ont réfléchi, ils se sont dit, bon, alors voilà, on met des gens en prison, il y a une surpopulation carcérale, donc effectivement, par effet d'imitation, on crée des délinquants en plus, ça ne résout rien, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, il y a 10 ans, ils ont mis en place un plan qui a permis effectivement de sortir les gens des prisons. Et tant et si bien qu'ils louent leurs prisons restantes aux Belges et ça leur rapporte de l'argent en plus.
À la prison, à moitié vide et rentable, du coup, qu'on loue comme un hôtel.
30 millions par an, ouais. Voilà. Donc voilà, nous, on est encore à se dire, on va créer de nouvelles prisons et on va essayer d'incarcérer différemment, encore plus. Enfin bref, ça ne marche pas du tout.
Jean-Sébastien Ferjou, c'était un débat gauche-droite, ça? On a l'impression que la gauche a toujours voulu, au fond, vider les prisons, pardonnez-moi l'expression, et que la droite était plutôt sur un mode appliquer les peines qui étaient prononcées par les magistrats.
Non, il y a un rapport à la sanction, à la sévérité, qui est certainement différent à gauche et à droite. Il y a surtout un rapport à l'exemplarité de la peine, je pense, qui est différent. Mais après, aux Pays-Bas, c'est pas spécialement des gouvernements de gauche qui ont pris les mesures en question. Mais il y a eu toute une réflexion différente sur la philosophie des peines, et qui, là, n'est pas menée, parce que la réforme présentée par Madame Belloubet, elle n'a que l'apparence du bon sens. C'est du bon sens Canada Dry. Comme par hasard.
Qu'est-ce que vous avez remarqué, Jean-François? C'est un principe de réalité.
Vous avez remarqué qu'il y avait une promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui disait « je m'engage à construire 15 000 places de prison pendant mon quinquennat ». On a appris que finalement, ça ne serait que 7 000. Ah ben tiens, qu'est-ce qu'elle a trouvé, Madame Belloubet? Parce que 15 moins 7, ça fait combien? 8 000. Eh ben, elle vous a trouvé exactement la réforme. Selon elle, que la plupart des magistrats contestent que ça puisse être le cas, qui, selon elle, avec une application différente des peines, arriverait à 8000. Donc on est dans une gestion de boutiquier, pardon, mais il n'y a vraiment pas d'autre mot, il n'y a aucune réflexion. Après, on peut avoir une vision de droite ou une vision de gauche, je ne suis pas certain qu'on aurait nécessairement exactement la même avec Audrey, mais sur la philosophie des peines, il y a des questions à se poser. Non mais là, ce sont des petits calculs comptables que les magistrats, y compris de gauche, contestent, parce qu'ils arrivent d'avoir des effets contradictoires. Alors, comme c'est dû en même temps, d'un côté, on vous dit « Ah, ben, il faut plus mettre les gens en prison pour des petites peines. » De toute façon, qu'on rassure Madame Belloubet, c'était déjà tombé à 7% uniquement des incarcérations, alors que c'était quasiment 20% il y a 20 ans. Et par ailleurs, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit aussi que, quand même, pour montrer qu'elle est sévère, il faut pas d'aménagement de peine au-dessus d'un an de prison, alors que la loi permettait jusqu'à présent que ce soit plus. Donc, c'est un peu dans un sens, un peu dans l'autre. À l'arrivée, je vous dis, c'est juste des calculs pour pouvoir dire « Ah, ben, la promesse de campagne n'a pas été tenue. » Il n'y a absolument pas de réflexion profonde sur les enjeux des prisons.
Boutiquier, donc, dit Jean-Sébastien Ferjou. Marie-Virginie Klein, quand la ministre, au fond, lance ses calculs, parce qu'elle dit on va créer 8000 autres places, mais d'ici à 2022, c'est-à-dire il faut une réélection donc, d'Emmanuel Macron, en l'occurrence. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que ça passe, ça, dans l'opinion, selon vous?
Je ne sais pas si ça passe
dans
l'opinion.
Parce qu'il y a une promesse électorale à l'origine.
Et en plus, enfin voilà, on est dans un débat vraiment éternel sur faut-il construire de nouvelles places en prison. On sait tous que le budget pour construire de nouvelles prisons est absolument colossal et qu'évidemment reporter toujours les promesses permettra de mieux ne pas les tenir. Moi, juste pour rebondir sur est-ce que c'est une question de clivage gauche-droite, cette question des prisons, je crois que là, on a dépassé ce clivage dans la question parce qu'effectivement, il y a quand même des solutions nouvelles qui peuvent émerger. Et la vraie question, c'est de savoir quelle est la meilleure façon de punir. Parce que l'objectif, quand on met quelqu'un en prison, c'est de le punir.
Oui, c'est le fond du problème.
Et de le réinsérer.
Et quelle est la meilleure façon de punir quelqu'un? Est-ce que c'est de l'enfermer? Et donc, on sait très bien ce à quoi ça conduit. Quand on est en prison pendant un certain nombre de temps, on s'endurcit, voire on développe son réseau, etc.
Oui, Nicolas Bouzou, il faut changer de logiciel pour rebondir sur ce qui vient d'être dit.
Ah oui, complètement. On a une vision de la punition qui est incroyablement archaïque. C'est-à-dire qu'on considère qu'il faut...
Ce que disait tout à l'heure André Goutard, hein, oui.
Mais bien sûr, on considère qu'il faut enfermer les gens. Les punir, c'est les enfermer. Mais c'est le degré zéro de la réflexion. Deux remarques très rapides. Première chose, il n'y a pas de lien entre le nombre de personnes enfermées et le niveau d'insécurité dans un pays.
Les études de criminologie ont montré en 1980 qu'après l'amnistie de François Mitterrand qui avait sorti 5000 personnes des prisons, il y a eu plus de 20% en actes criminels l'année qu'à suivre.
Avant de dire que j'ai tort, je vais peut-être donner mon argument, ce sera plus logique.
Sur ce point-là, en tout cas.
Non, mais justement, non. L'Europe enferme beaucoup moins en proportion de sa population que les États-Unis. Les États-Unis enferment beaucoup plus, il y a beaucoup moins d'insécurité en Europe qu'aux États-Unis. Deuxième chose, c'est qu'on peut parfaitement imaginer de nouveaux modèles de prison. Mon ami Gaspard Koenig avait fait, il y a quelques mois, un excellent reportage dans Le Point sur les prisons ouvertes en Finlande, qui montrait que, juste, alors les prisons ouvertes, c'est pas fait pour des serial killers, hein, bien évidemment. Mais pour des gens qui ont commis des choses d'une gravité, pardonnez-moi, modérée, les résultats en termes de réinsertion sont meilleurs que les prisons
fermées. Donc changer de logiciel. Un dernier mot rapide là-dessus, Audrey Goutard.
Il y a deux choses. Il y a d'un côté la philosophie de la peine, de la punition, et de l'autre côté l'ordre public. Donc la prison, oui, quand il s'agit effectivement d'écarter quelqu'un de dangereux qui gêne, qui pose un problème à l'ordre public, et... Non, lorsqu'il s'agit juste d'une philosophie de la peine, simplement la punition, on enferme, ça ne marche pas.
Allez, 20h21 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Claire Flochel.
Un homme sur 5 et une femme sur 6 dans le monde développeront un cancer au cours de leur vie. Ce sont les dernières estimations du Centre international de recherche sur le cancer. La maladie continue sa progression alarmante selon les chercheurs. Le cancer du poumon est de loin le plus meurtrier, suivi par le cancer colorectal, le cancer de l'estomac et le cancer du foie. Agnès Buzyn et Marlène Schiappa condamnent fermement les propos hier soir du chef de file des gynécologues. Bertrand de Rochambeau a expliqué qu'il refusait désormais de pratiquer des IVG car il considère que les interruptions volontaires de grossesse sont des homicides. L'IVG doit être un droit réel. Rien ni personne ne doit l'entraver, affirme la ministre de la Santé. Le chef de la diplomatie française estime que l'hypothèse de crime de guerre est fort probable à Idlib, l'enclave rebelle syrienne. À partir du moment où l'on commence à bombarder de manière indiscriminée les populations civiles et les hôpitaux, Jean-Yves Le Drian craint d'être à la veille d'une catastrophe humanitaire et sécuritaire considérable en Syrie. Et puis l'ex-leader du groupe Carte de Séjour et membre du conseil 1, 2, 3 Soleil, Rachita, est décédé. L'artiste avait reçu une victoire de la musique pour l'ensemble de sa carrière il y a 2 ans. Il était sur le point de sortir un nouvel album. Rachita a succombé à une crise cardiaque à l'âge de 59 ans.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous allons évoquer l'affaire Benalla, mais je voudrais vous réagir à ce qu'a annoncé Claire Flochel autour de la table ici sur cette déclaration de Bertrand de Rochambeau, le patron du syndicat national des gynécologues. C'est une déclaration faite à l'émission Quotidien de TMC. Audrey Goutard, nous ne sommes pas là pour retirer des vies. Et il a évoqué d'ailleurs, il parle d'homicide pour l'IVG. Il évoque d'ailleurs une clause de conscience. Commentaire ce soir.
Écoutez, ce monsieur peut avoir en son fort intérieur un ressenti, une conviction, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'il est président d'un syndicat qui représente toute une profession et qu'il y a une loi. La loi, elle est claire. En France, les femmes ont le droit de pratiquer, de subir un IVG. Aujourd'hui, ramener ce délicat problème, cette délicate affaire comme ça sur le banc public, je trouve que c'est inconséquent de la part d'un représentant. Et surtout, il y a, je vous rappelle, la loi. La loi, elle est claire en France.
Marie-Virginie Klein, sur cette annonce spectaculaire de Bertrand de Rochambeau, c'est un retour en arrière assez important quand même, non ?
C'est une bonne façon de se rappeler que rien n'est jamais acquis. Et notamment des droits comme ça. Je veux dire, là, on revient dans un débat qui a lieu il y a 40 ans, donc en 75. Ouais. Donc, c'est choquant. En plus, au-delà du fond, il y a la forme, c'est-à-dire que dire ça dans une émission qui est plutôt une émission légère et pas forcément une émission où on aborde des sujets comme ça durs et de fond, moi, je trouve ça particulièrement triste.
J'imagine qu'il a dû répondre à une question qu'on lui posait.
Oui, il a répondu à une question, oui, mais il a émis quand même une conviction profonde.
Non, mais je pense que la loi est très claire aussi. La liberté de conscience existe. Donc après, idée de la responsabilité, je comprends que Madame Schiappa ou les ministres en charge du sujet ou du droit des femmes se préoccupent parce que derrière la question du principe, il y a une réalité. Effectivement, il y a un certain nombre de départements en France où il est difficile pour les femmes de trouver des médecins qui acceptent de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse. Mmh. Maintenant, moi, je pense que la liberté de conscience, elle est non négociable. Ce monsieur, effectivement, il est chef de son syndicat. C'est la question de son syndicat, à eux de savoir s'ils auront envie de le reconduire.
Propos n'engage que lui-même. Oui.
Il a répondu à une question, parce que c'est une question qui est extrêmement personnelle. Après, lui, il dit, et il peut défendre du point de vue de son syndicat, un certain nombre de médecins, parce qu'il y en a un nombre grandissant, qui disent « je ne veux pas parce que ma conscience me l'interdit ». Après, encore une fois, la loi, elle existe, c'est au gouvernement de trouver d'autres moyens pour faire en sorte que l'accès à l'IVG soit protégé en France.
Dernier mot là-dessus, Nicolas Bouzou, c'est un débat en 2018
Non, mais justement, je pense que le débat bioéthique va devenir très important ces prochaines années, parce que une très grosse partie de la révolution du numérique, de la robotique et de l'intelligence artificielle, elle a des implications justement dans le domaine du vivant. Et de ce point de vue-là, on n'a absolument rien vu, évidemment, avec l'IVG. Et donc, on va avoir les manipulations génétiques, les bébés prouvettes, etc. Plein de choses qui vont arriver. Et c'est vrai que je ne veux pas faire de mauvais esprit et accabler cette personne, je ne connais pas, qui est sûrement charmante, mais c'est vrai que les gens qui n'acceptent pas l'IVG, je ne sais pas comment ils vont se positionner dans les débats dans 5 ou 10 ans avec tout ce que la révolution...
Des
biotechnologies nous promet.
Non, mais j'imagine qu'il doit être catholique, qui se positionnera exactement de la même manière. Bien. L'Église a des positions qui sont assez claires sur un certain nombre de sujets comme ça. D'ailleurs, Emmanuel Macron a pris des engagements lors de sa visite à Rome quand il est allé voir le pape au mois de juin dernier.
Audrey Goutard. Je pense que dans ce dossier-là, il faut être assez terre à terre. Vous disiez, il y a 40 ans, on a autorisé l'IVG en France. Pourquoi ? Parce qu'il y avait en moyenne 150 000 femmes qui mouraient chaque année d'IVG de fond de couloir. C'est-à-dire que la jeune génération a peut-être oublié qu'avant, on se faisait avorté en fond de couloir par des infirmières qui le pratiquaient de façon épouvantable avec un matériel absolument désuet et les femmes mouraient, voilà, c'est simple, mouraient. Alors aujourd'hui on entendait aussi un chiffre sur le nombre de cancers, elles mouraient tout autant qu'on meurt aujourd'hui du cancer.
Mais alors Jean-Sébastien Ferjou.
Mais je suis entièrement d'accord avec ça. Encore une fois, je pense que les pouvoirs publics ont pour mission d'assurer quelque chose qui figure dans la loi. Mais encore une fois, un principe ne se divise pas. C'est toujours la même chose avec les progressistes, entre guillemets, ce qu'ils ont l'air de considérer que le sens de l'histoire ira toujours dans le même sens. Mais la liberté de conscience, c'est important. Imaginez que demain, vous ayez, peut-être sur des questions technologiques, un gouvernement qui arrive et qui dise, tiens, on va faire de l'eugénisme. Et que des médecins disent non, parce que c'est contraire à ma conscience, que ce soit sur ce point-là ou sur d'autres, un principe ne se divise pas. Donc après, il peut y avoir un problème matériel s'il s'avérait que tous les médecins français devenaient éperdument catholiques. Vu la sociologie du catholicisme en France, je suis pas persuadé. C'est plus un problème administratif pour le gouvernement.
Audrey Goutard.
Juste, simplement, j'espère que ce médecin, enfin, je regrette que ce médecin n'ait pas ajouté dans son propos que, effectivement, la loi lui permettrait de refuser de pratiquer un avortement, mais qu'il avait l'obligation d'orienter sa patiente vers quelqu'un d'autre et surtout pas de la dissuader de se faire avorter. Et il est dommage que ce monsieur, en donnant son point de vue personnel, n'ait pas aussi donné la loi en tant que président d'un syndicat.
Allez, on parlera de l'affaire Benalla mais tout à l'heure, hein, après la météo et après le rappel de l'info. Nous évoquerons aussi les eurodéputés et leur décision à l'encontre de Viktor Orban, mais aussi des GAFA priés de verser des droits d'auteur. À tout de suite, on se retrouve pour la suite des informés.
Des monuments français à sauver, des millions d'euros à gagner. Ce vendredi, Super Loto Mission Patrimoine avec jackpot exceptionnel de 13 millions d'euros à partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Mercedes-Benz.
Mesdames, messieurs, nous faisons face à un alignement d'étoiles exceptionnel. Un phénomène rare.
Mais professeur, aurons-nous les bonnes conditions pour les observer?
Vous aurez les meilleures conditions. Et pour les observer, vous n'aurez pas besoin de lever les yeux au ciel.
Du 10 au 20 septembre, Mercedes-Benz aligne ses plus beaux modèles durant les Star Days. 10 jours pour profiter de la boîte automatique offerte sur toute la gamme. Voir conditions sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants au grand confort d'écriture. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez tous les stylos Pilote sur pilotepen.fr.
La météo, les prévisions avec vous, Jean-Pierre Hameau pour Météo France.
Demain matin, nous allons retrouver une perturbation peu active mais très nuageuse des Pays de Loire à la région centre, de l'Île-de-France à la région Champagne-Ardenne. Vous apprécierez le retour de belles éclaircies à l'arrière et le long des côtes de la Manche. Partout ailleurs, le ciel sera souvent nuageux, excepté autour du Golfe du Lion, de l'Auvergne à la région Rhône-Alpes, sans oublier la région PACA où le soleil résistera. L'après-midi, les éclaircies vont gagner du terrain dans le nord et le nord-ouest, mais aussi du côté de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées. Le soleil sera même généreux autour de la Méditerranée et le long de la vallée du Rhône. Et partout ailleurs, prévoyez un temps gris avec en prime des pluies orageuses le long des frontières de l'Est. Les températures en sensible baisse seront encore bien agréables pour la saison, avec des maximales de 18 à 25 degrés dans la moitié nord, de 26 à 31 dans la moitié sud. On ira même jusqu'à 32 degrés en basse vallée du Rhône.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
France Info, il est 20h30, toute l'info avec vous. Bonsoir Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. L'accord entre pêcheurs français et britanniques sur la pêche à la coquille Saint-Jacques reste à quai. Les pêcheurs normands sifflent la fin de la partie des négociations et dénoncent au passage les exigences exorbitantes des Britanniques en matière de compensation et d'indemnisation s'ils acceptaient la proposition française, à savoir une période de pêche plus courte dans l'année pour préserver la ressource. La SNCF envisage de faire circuler d'ici 2023 des prototypes de trains entièrement automatiques, sans chauffeur, pour les voyageurs et les marchandises. L'expérience pourrait être généralisée, si elle est concluante, dans les années suivantes et en fonction des besoins aussi de l'acceptation du public. L'Église catholique allemande se dit honteuse. Ce soir, la presse a divulgué un rapport révélant des milliers d'abus sexuels sur mineurs durant des décennies. Plus de 3700 enfants, principalement des garçons de moins de 13 ans, auraient été abusés par des prêtres entre 1946 et 2014. Et selon le rapport, l'Église est accusée d'avoir sciemment cacher les faits. Ludovic Piétenu.
Ce soir, c'est un repentir. L'Église reconnaît sa faute dans un communiqué. Nous sommes accablés et honteux. Nous sommes conscients de l'ampleur des abus sexuels. Le communiqué évoque une page sombre de l'histoire de l'Église. Pendant plus de 3 ans, des chercheurs ont pu examiner 38 000 dossiers manuscrits des 27 diocèses allemands sur une période de près de 70 ans, de 1946 à 2014. Et comme souvent dans un rapport, la conclusion est clinique. 1670 clercs ont abusé de 3 3677 enfants, en majorité, précisent les chercheurs, des garçons âgés de moins de 13 ans. Un véritable système est allé au grand jour, et encore sans un accès direct aux archives. Ces scientifiques estiment même que l'Église a détruit, a manipulé des documents, elle a minimisé sciemment la gravité, l'ampleur des faits, elle a très rarement sanctionné les religieux, le plus souvent elle les a transférés sans avertir les fidèles du danger. Il y a de fortes raisons de croire, estiment les chercheurs, que ces abus sexuels se poursuivent aujourd'hui puisqu'ils ont recensé des victimes jusqu'à la fin de la période d'enquête.
Ludovic Piétenu, la Hongrie au banc des nations. Le Parlement européen active une procédure très rare qui pourrait conduire à des sanctions contre le pays dirigé par le Premier ministre Viktor Orban après avoir dénoncé la menace systémique visant les valeurs de l'Union européenne en Hongrie. La France salue cette position du Parlement européen. Jean-Claude Juncker, lui, veut la fin des changements d'heure en été et en hiver. Dès l'an prochain, le président de la Commission européenne veut laisser les États libres de choisir à quelle heure, été ou hiver, ils voudront restez. 20h33, les informés, suite et fin.
Les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités Audrey Goutard, journaliste sur France 2, présentatrice de l'Instant T sur France Info, avec Marie-Virginie Klein, communicante associée du cabinet Tilder, avec Jean-Sébastien Ferjou, co-fondateur et directeur de la publication Atlantico, Nicolas Bouzou, économiste, essayiste, éditorialiste, fondateur d'Astérès et du Cercle de Bellem, auteur avec Julia de Funès de la Comédie inhumaine aux éditions de l'Observatoire. Voilà, c'est dit. Alors l'affaire Benalla est repartie de plus belle avec la saison 2 des auditions de la commission d'enquête sénatoriale qui a notamment entendu le chef de cabinet du président de la République, François-Xavier Loche. La journée avait commencé avec cette déclaration surprenante de la garde des Sceaux qui a semblé justifier sur LCP le refus préalable d'Alexandre Benalla de répondre à la convocation des sénateurs.
Non, ça ne peut pas interférer. C'est la raison pour laquelle il y a, évidemment, lorsque une commission d'enquête est ainsi conduite, j'écris toujours au président de l'Assemblée nationale pour l'informer qu'une information judiciaire est en cours. Puisque, bien entendu, c'est une interférence. Et donc, c'est cela la règle qui est tout à fait essentielle. Et c'est la raison pour laquelle, actuellement, je crois, au moment où nous parlons, Alexandre Benalla n'a pas encore répondu à la commission d'enquête du Sénat. Il ne peut pas y avoir d'interférence.
Oui, je rappelle que Alexandre Benalla s'est finalement résolu à s'y rendre. Audrey Goutard, la ministre a-t-elle commenté une affaire judiciaire en cours? Parce qu'on dit souvent, je ne commente pas, oui. On dit ça à l'envers.
Oui, oui, mais alors du coup, on ne dit plus rien, mais tout le monde commente les affaires judiciaires en cours.
Mais nous ne sommes pas ministres de la justice,
Jean-Sébastien Ferjou, je précise. Justice, oui. Vous avez raison. Est-ce qu'elle a... je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je n'ai pas l'impression.
En termes de communication, pardon, mais
dire de l'argumentaire, pas d'interférence entre la commission d'enquête et l'information judiciaire, elle est dans le vrai.
C'est fascinant de voir le nombre d'erreurs de communication politique, parce que, en termes juridiques, ça peut se discuter. Alexandre Benalla pouvait être convoqué par le Sénat, mais effectivement, il faut que ça reste des procédures différentes et que le Sénat n'empiète pas sur ce qui pourrait se passer dans une information judiciaire. Mais en termes de communication, c'est juste délirant. Ils n'ont cessé de donner l'impression de vouloir cacher des choses, d'arranger. Et là, elle remet une pièce dans la machine. Qu'avait-elle besoin d'aller le dire? Et avec en plus un Alexandre Benalla qui lui-même remet une couche derrière en traitant les sénateurs de petits marquis. Franchement, enfin, on se demande s'ils ont déjà oublié les leçons de l'été. Je pense que les Français en ont un peu assez pour leur part, mais ça serait bien que justement une seule fois leur ait suffi.
Vous dites catastrophe, Marie-Virginie Klein.
Ah oui, alors là, en termes de communication, d'ailleurs, je vous rejoins, je pense que tout le monde en a un petit peu marre d'entendre parler de l'affaire Benalla qui poursuit
vous dites ça,
le gouvernement
vous
depuis l'été. Alors, moi, je ne sais pas si en termes judiciaires, elle a eu raison ou tort de s'exprimer, mais en termes de communication, elle a eu résolument tort. D'abord parce que ça laisse sous-entendre qu'elle défend Benalla. Et en plus, ça ferme complètement l'opportunité pour le gouvernement de tourner la page de la rentrée. C'est-à-dire qu'il y a une rentrée qui était très compliquée, très difficile. Demain, le président annonce son plan pauvreté, qui est un plan qui va là, qui devrait normalement avoir une répercussion très importante et qui permettrait un peu de changer de sujet. Et non, là, on remet de l'huile sur le feu et on reparle de l'affaire Benalla. Je trouve que c'est maladroit.
Nicolas Bouzou, vous êtes d'accord avec ce point de vue? Au fond, il y a ce plan pauvreté, mais aussi les négociations, les arbitrages hein, autour du futur budget. Est-ce que l'affaire Benalla est une forme d'empêchement de la vie économique et sociale de reprendre dans ce pays?
Oui, mais ça, c'est le masochisme du débat public français qui a une très grande capacité. Vous voyez, j'y participe moi-même là, qui a une très grande capacité à se focaliser sur des choses peu importantes.
Alors, vous avez tout à fait raison. Vous aussi, comme Marie
Oui, Virginie Klein. Non, mais l'affaire Benalla, moi, j'en peux plus, ça m'a jamais intéressé. En même temps, c'est vrai que voir ce jeune homme insulter les sénateurs, je trouve ça absolument insupportable. Les sénateurs, les parlementaires, c'est nos représentants. Quand ils les insultent, ils m'insultent d'une certaine façon. Et donc, c'est vrai que je commence à en avoir marre. Vous savez, moi, je suis un libéral. Il va peut-être falloir quand même que les gens qui sont payés avec l'argent du contribuable comprennent qu'ils sont à notre service et non pas l'inverse. Donc ça, c'est absolument insupportable.
Même voilà. Jupiterien,
sur le
principe intangible.
Absolument. Oui. Mais bon, cela dit, en effet, cette affaire Benalla, le plan pauvreté est quand même beaucoup plus important.
Non,
moi, je suis pas d'accord. On a des problèmes de pauvreté. On a 9% de chômage et 40% d'entreprise. Enfin, on a quand même, on a nos amis américains et chinois qui sont en train de coloniser économiquement la planète. Et nous, on parle de l'affaire Benalla. C'est vrai que c'est pas à la hauteur.
Non, vous n'êtes pas d'accord, Audrey Goutard?
Non, je ne suis pas du tout d'accord sur le fait que l'affaire Benalla n'est pas intéressante. Pourquoi? Parce que je trouve que l'affaire Benalla, au contraire, permet aux Français de rentrer dans les rouages de l'Élysée. L'Élysée, c'est finalement, c'est ils s'aperçoivent que finalement l'Élysée fonctionne un peu comme leur boîte, c'est-à-dire que vous avez le patron. Vous avez les proches du patron, et puis vous avez celui que le proche du patron a embauché.
Vous parlez d'expérience ?
Non, je ne parle pas d'expérience, mais c'est la nature humaine. Mmh. Et finalement, on se rend compte, si vous voulez, que un Benalla, tout à coup, parce qu'il avait l'aura d'avoir été embauché par un proche du patron, eh bien, il a pu faire un peu ce qu'il voulait et que tout le monde était là pour le servir.
Ça raconte quelque chose. Que l'on connaît soi-même.
Oui,
dans
ça raconte quelque chose que les Français connaissent, comprennent très bien, et ça montre finalement que ces erreurs-là peuvent être commises dans leur entreprise, mais peuvent être commises aussi au plus haut de l'État. D'où l'importance d'avoir des commissions sénatoriale, d'où l'importance d'avoir des parlementaires, d'où l'importance d'avoir des pare-feu.
Ça raconte ça, je suis d'accord. Ça raconte malgré tout ça. Il y a un intérêt quand même à l'affaire Benalla. Après, pas dans tous les détails.
Vous voyez,
de là à passer des heures tous les jours dessus, il est normal que la commission d'enquête du Sénat le fasse. Après, pour les médias, c'est une autre question. Mais moi, je trouve que ça raconte, ça dit aussi quelque chose d'intéressant parce que l'affaire Benalla, c'est, on a vu l'État se cabrer contre Emmanuel Macron. C'est ça, l'affaire Benalla. C'est pas uniquement ce qui s'est passé le 1er mai sur la place de la Contrescarpe. C'est vraiment la police, parce qu'on l'a vu, les images, comment croyez-vous qu'elle soit arrivée. On a vu un directeur de cabinet qui très vite lâchait le président de la République. Il y a l'État qui est en train de se rebiffer contre un mode de gouvernance, un autoritarisme qui ne supporte pas. On l'a vu dans un tout autre registre aussi avec le communiqué de presse du directeur des finances publiques, du directeur de l'administration centrale des finances publiques, il y a 2 semaines sur le prélèvement à la source. Il y a une rébellion contre un pouvoir qui n'a jamais été aussi centralisé. Et pourtant, Dieu sait si les institutions françaises favorisent le truc. Maintenant, ce que je trouve encore une fois complètement délirant en termes de com', c'est qu'Alexandre Benalla veuille pas y aller, alors que pour le coup, une commission d'enquête parlementaire, et quelles que soient les qualités de Philippe Bas et des sénateurs, elles n'ont absolument pas les mêmes pouvoirs qu'une commission d'enquête parlementaire américaine. Donc, je comprends qu'aux États-Unis, on puisse vouloir éviter une commission d'enquête, parce que effectivement, ça peut...
Il n'est pas chez nous.
Mais franchement, chez nous, il peut y aller raconter n'importe quoi, ça produira un effet qui sera pas jojo d'un point de vue politique, mais juridiquement, il risque rien.
Bon, en tout cas, la saison 2 ne fait que commencer. On aura malheureusement peut-être l'occasion d'y revenir. 20h40 sur France Info, le rappel de l'info, avec vous, Claire Flochel.
Richard Ferrand, nouveau titulaire du perchoir. Comme attendu, le patron des députés La République En Marche a été élu en fin d'après-midi président de l'Assemblée nationale sans faire le plein des voix de la majorité. L'élu du Finistère de 56 ans a recueilli 254 voix. Marine Le Pen chahutée dans un village du Var qui doit prochainement accueillir un centre de demandeurs d'asile. La présidente du Rassemblement national ex-FN était venue protester contre la venue de ces 72 migrants parlant, je cite, d'une submersion migratoire imposée par l'Union européenne. Paris salue la position du Parlement européen sur la Hongrie. Le Parlement de Strasbourg qui demande au Conseil européen d'ouvrir une procédure de sanction contre Budapest, procédure rare en raison des menaces que fait peser la Hongrie sur les valeurs fondamentales de l'Union. Une décision qui pourrait conduire à suspendre le droit de vote de l'État membre. L'échec des négociations pour de bon entre les pêcheurs français et britanniques au sujet de la pêche de la coquille Saint-Jacques en baie de Seine. Les Français dénoncent les exigences exorbitante des Britanniques pour partager la ressource. Et puis Hugo Lloris condamné à 20 mois de suspension de permis et à 56 000 euros d'amende. Le gardien et capitaine de l'équipe de France de football comparaissait devant le tribunal de Westminster à Londres ce matin. Il est condamné pour avoir conduit en état d'ivresse fin août dans les rues de Londres.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
C'est effectivement une première dans l'histoire de l'Union européenne. Les deux tiers du Parlement européen ont voté la résolution exigeant des sanctions à l'encontre de Viktor Orban, qui a tenté en vain de plaider sa cause auprès des partis et pays membres du PPE, le Parti populaire européen, auquel appartient sa formation, le Fidesz, au pouvoir en Hongrie. Le parti Les Républicains s'est associé au mouvement de rejet de Monsieur Orban, comme l'a confirmé ce matin à nos confrères de l'opinion, Jean Leonetti, le vice-président délégué de LR.
Si l'article 7, qui est l'article qui peut être activé et qui peut aboutir à la suppression du vote de la Hongrie au sein de l'Union européenne, aboutissait, je ne vois pas comment le PPE pourrait le garder à l'intérieur du parti. Si on avait eu un Viktor Orban en face de nous qui dise « Bon, écoutez, on va essayer de trouver des solutions pour faire en sorte que ce pays qui n'a pas la même histoire que les autres démocraties, progressivement rentre dans un contexte démocratique. » Donc je pense que malheureusement, on rentre dans une procédure qui est irréversible.
Jean-Sébastien Ferjou, c'était couru d'avance que le parti Les Républicains lâche au fond M. Orban ou pas?
Pour les Républicains français, je pense qu'ils regardaient surtout ce qu'allaient faire les autres partis membres du PPE, justement du Parti des Conservateurs au Parlement européen, parce qu'il y a eu des calculs dans un sens ou dans l'autre en essayant d'anticiper s'ils avaient ou pas besoin de Viktor Orban l'année prochaine au moment des élections européennes et ensuite pour désigner le prochain président de la Commission européenne. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez détestable dans cette affaire, pas dans le fait qu'on ouvre une procédure de sanction contre la Hongrie. Il y a incontestablement des dérives démocratiques très graves dans ce pays. En revanche, la manière dont on a posé le débat, c'est-à-dire qu'on a un peu fermé les yeux sur justement ces atteintes à la démocratie, ou sur la corruption, ou sur la liberté de la presse qui est restreinte, ou des tas de choses de cet ordre-là qui font que la Hongrie est un état de droit un peu chancelant. Et on a centré le débat justement sur les valeurs que porte M. Orban. Et ça, je pense que c'est une grave erreur, parce que encore une fois, la démocratie est, si on veut vivre dans une union, c'est aussi d'accepter qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme nous. M. Orban pourrait ne pas vouloir d'immigrer dans son pays, pourrait considérer que l'Europe est un club de nations chrétiennes, sans pour autant piétiner la démocratie dans son pays. Et moi, je pense que l'Union européenne a la vocation à sanctionner les atteintes à la démocratie, pas à faire la police politique en quelque sorte, parce que ça va lui revenir en boomerang dans la figure et qu'on se prépare des lendemains très difficiles.
Nicolas Bouzou, vous y voyez une forme de délitement de l'Union européenne sous nos yeux, là, en direct?
Non, pas du tout. Je vais vous dire, je vois plutôt l'inverse. Moi, j'ai beaucoup trouvé que l'Union européenne manquait de force, manquait de puissance, qu'elle affirmait pas suffisamment ses principes. Or, l'Union européenne, elle a, dans ses principes, l'état de droit, la liberté de la presse, l'indépendance de la justice. Et donc, à partir du moment où un pays qui est membre de l'Union européenne ne respecte pas ses principes comme il le devrait, alors il s'assoit pas dessus, n'exagérons rien, la Pologne ou la Hongrie ne s'assoit pas, ce sont quand même des pays qui sont relativement libres, mais en tout cas, il y a des atteintes à l'état de droit, il y a des atteintes à la liberté de la presse et à l'indépendance de la justice, c'est absolument inacceptable, et donc oui, l'Union européenne a raison d'être forte et d'imposer des sanctions. Après, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Jean-Sébastien, il faut pas mélanger la politique avec ce que je considère comme étant des principes intangibles. Vous savez, l'état de droit, c'est très important, c'est notre plus grand bien. Les gens s'en rendent pas compte. C'est la montée des populismes menace ça, mais c'est notre plus grand bien commun.
Alors, cette procédure a peu de chances d'aboutir. On en est aux prémices de cet article 7. C'est un peu compliqué, tout ce qui touche à l'Union européenne. Il faut le préciser. Audrey Goutard, est-ce qu'au fond, on assiste à une sorte de jeu de rôle, de répartition des forces qui vont s'affronter aux élections européennes?
Clairement, parce que quand on voit que aujourd'hui, si vous voulez, le PPE, donc qui est le grand parti de droite qui se prépare pour les élections, etc., on voit qu'ils ont voté contre donc Orban et contre la Hongrie. À partir de ce moment-là, ça veut dire qu'ils restent avec leur centre. Ça veut dire qu'ils ne sont pas simplement, ils ne vont pas vers les extrémistes. Hein, on va vers les, parce que je vous rappelle quand même que même le mouvement 5 étoiles, l'Italie et l'Autriche n'ont pas soutenu Orban. Donc du coup, ça les recentre et ça ne laisse pas cette place qu'espérait finalement Emmanuel Macron, cette place qui aurait été à prendre au centre et qui, où il aurait pu se positionner en vue des élections.
Oui, alors à ce sujet, Marie-Virginie Klein, on a vu des eurodéputés finalement qui se mobilisent hein, contre Viktor Orban. Ils ont également adopté aujourd'hui assez largement d'ailleurs la proposition de directive relative aux droits d'auteur sur Internet. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, eh bien, cette Europe commence à avoir une sorte d'existence aux yeux des peuples qui la composent, selon vous? Les Français sont toujours réputés éloignés des questions européennes.
Ouais, alors moi j'ai peur que cette affaire Orban soit un peu à double tranchant. C'est-à-dire que oui, d'une certaine façon, l'Europe impose ses valeurs et c'est une bonne chose, mais d'une autre façon, en fait, Orban va se positionner comme le chef de file de tous ceux qui existent et qui sont nombreux, qui considèrent l'Europe comme une passoire et qui sont dans ce mouvement très à droite. Donc En choisissant de complètement mettre à l'écart Viktor Orban, enfin on verra si c'est le cas définitivement, on antagonise complètement le débat et finalement les institutions européennes pourraient être instrumentalisées comme étant le produit d'une élite, d'une institution élitiste, anti-immigration, etc. Donc je pense que c'est un peu compliqué.
Audrey Guttard.
Je pense que ça aurait pu être le cas si le mouvement 5 étoiles et si les Autrichiens n'avaient pas, ne s'étaient pas désolidarisés d'Orban. Donc là, pour le moment, en dehors de quelques souverainistes, personne ne soutient, si j'ai bien compris.
On voit bien l'utilisation
le diable est dans les détails. Vous l'avez dit, la procédure va être longue et complexe. Voilà. Je peux vous garantir qu'en fonction des rapports de force européens,
la
défense des principes, il y aura beaucoup de gens qui vont s'asseoir dessus en fonction de leurs intérêts.
J'ai évoqué à l'instant cette décision, cette proposition d'imposer aux géants du net, les GAFA, au fond de rémunérer les auteurs des œuvres qu'elles publient, ces plateformes américaines essentiellement. Il faut rémunérer les artistes, expliqué ce matin sur France Info, la chanteuse et auteure-compositrice Émilie Loison, on l'écoute.
C'est un accès formidable, évidemment. Le fait de pouvoir faire circuler nos œuvres est quelque chose de formidable. Simplement, à partir du moment où ce n'est pas un espace de gratuité totale où personne ne tire profit et où ce serait un libre-échange culturel, à partir du moment où il y a des gens qui sont déjà multimilliardaires, tirent profit des œuvres pour gagner davantage, il faut répartir et reverser à ceux qui sont à l'origine du contenu.
Voilà, c'est l'autre grande décision du jour à Bruxelles. Nicolas Bouzou, ça va exister vraiment des sanctions de cet ordre contre les... On va faire payer les GAFA, au fond.
Et bien sûr, attendez...
Ça va marcher, ça?
Enfin, on parlait de l'état de droit, le droit de propriété, ça existe. Quand un journal publie un article, c'est lui qui en est le propriétaire. Moi, je suis pas du tout anti-GAFA, je pense que c'est extra... Je pense que les GAFA et les BATX en Chine apportent beaucoup plus que ce qu'ils retirent, donc je ne peux pas être soupçonné de ça. Mais enfin, écoutez, il y a quand même des principes de philosophie du droit qui sont intangibles. Je viens de publier un livre, c'est quand même moi qui l'ai écrit. Donc c'est quand même moi qui dois gagner une partie de l'argent qui est lié à ces ventes de livres. Si on commence à s'asseoir sur ce type de principe, mais on entre vraiment dans un délitement total de notre société et de nos principes. Donc oui, bien évidemment, le droit d'auteur, ça existe, mais ça existe en droit parce que ça existe en philosophie du droit. Ça existe parce que quand vous écrivez quelque chose, vous en êtes le propriétaire. Il faut absolument se donner les moyens juridiques de faire respecter ça. Et c'est formidable ce qu'a fait le Parlement européen aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Europe, ça sert quand même à quelque chose.
Allez, on va continuer sur la question, sur le sujet, mais juste après, à 20h50 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Claire Flochel.
Il aurait soufflé ses 60 bougies la semaine prochaine. Rachita est mort chez lui au Lila. Personnalité forte de la scène rock des années 80, il a succombé à une crise cardiaque. On se souviendra notamment de sa reprise un peu ironique de Douce France ou sa participation au spectacle 1, 2, 3 Soleil avec Raled et Faudel. Le plan prison de Nicole Belloubet, c'est du Taubira réchauffé. C'est ce qu'a déclaré sur France Info Emmanuel Baudin, le secrétaire général de Force ouvrière pénitentiaire. La garde des Sceaux l'a présenté en Conseil des ministres aujourd'hui. aujourd'hui, elle veut s'attaquer à une surpopulation carcérale record. Son plan prison devrait, selon elle, permettre de réduire de 8000 le nombre de détenus en France. La communauté internationale est à la veille d'une catastrophe humanitaire et sécuritaire considérable. Les mots sont signés Jean-Yves Le Drian à propos d'Idlib, l'ultime bastion rebelle du nord-ouest de la Syrie, cible d'une offensive des forces du régime syrien et de l'armée russe. Et puis l'ouragan Florence rétrogradé en catégorie 3 sur 5 ce soir, mais il reste tout de même dangereux, disent les autorités américaines. Un ouragan potentiellement dévastateur avec des vents extrêmement violents et des pluies diluviennes attendues sur la côte est des États-Unis demain. Évacuation en masse, 1 700 000 personnes ont dû quitter leur logement en Caroline du Sud, en Caroline du Nord et en Virginie. La Géorgie décrète à son tour l'état d'urgence.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors Hélène, une auditrice qui apparemment fait du sous-titrage de films, m'écrit « Merci d'avoir évoqué ce sujet de projet de directive sur le droit d'auteur ». Et Hélène ajoute « Smells like victory ». J'espère que je prononce bien en anglais. Marie-Virginie Klein, c'est une victoire de l'Europe sur ces plateformes internationales, étrangères, qui balayent tout sur leur passage.
Hein. Alors moi, j'ai peur de pas me faire beaucoup d'amis, mais... je trouve que ce sujet est extrêmement complexe. Voilà, je trouve que c'est un sujet qui a trait aux nouvelles pratiques de la nouvelle économie et c'est pas noir ou blanc. C'est-à-dire que d'une certaine façon aussi, les entreprises et notamment les médias européens n'ont pas totalement pris le virage du numérique, du digital, etc. Et d'une certaine façon, c'est en train d'être régulé. C'est toujours le débat hein, éternel. Faut-il réguler ou est-ce qu'il ne faut pas réguler ? Ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait aussi quand on parle des médias, ce qui pose un sujet, c'est peut-être le sujet de la hauteur de la rémunération. Parce qu'aujourd'hui, ce qui a de la valeur dans l'information, c'est vraiment les articles longs, fouillés, qui vont en profondeur, etc. Mais quelle est la valeur d'une information, finalement ? Et je crois que c'est un des sujets qui est pointé là par la directive, d'un bout de dépêche repris et finalement qui est la même information qu'on entend soit qui est sur les réseaux sociaux par des particuliers ou qu'on a entendu à la radio, etc. Moi, je trouve que ce débat est quand même très compliqué et que c'est pas si évident que tout contenu a la même valeur et doit être rémunéré de la même façon.
Ah, Jean-Sébastien Ferjou, que dites-vous de ce qu'avance Marie-Virginie Klein ? Certes, c'est subtil hein, ce qui se passe en ce moment sous nos yeux, mais quand même, les droits d'auteur, ça compte. Il faut pouvoir les rémunérer, les auteurs, non ? Parce qu'on a l'impression qu'ils sont un peu dépossédés de leur travail.
Ouais. Malheureusement, le monde ne se vit pas qu'avec des principes. Et moi, si je suis face à un géant, je préfère avoir une arme qu'un principe. Et là, l'Union européenne, elle se contente d'avoir une arme et malheureusement, un principe et pas une arme. Parce que pour la presse, moi, je me suis intéressé à ce qui concerne la presse. Les deux articles concernés, l'article 11 et l'article 13, c'est une vision catastrophique, totalement court-termiste des éditeurs de presse. Parce que là, effectivement, les éditeurs de presse vont obtenir que l'Union européenne impose à Google, notamment, ou à Apple de rémunérer pour partie ce que vous disiez, une information qui n'est pas toujours d'ailleurs la plus valorisée ou la plus chère à produire. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire derrière ? Parce que c'est déjà ce qu'ils ont fait dans le passé. Eh ben, ils vont fermer leur système, c'est-à-dire que vous devrez payer pour pouvoir avoir accès à leur plateforme. Donc je pense que ça va être catastrophique pour la presse à très court terme, c'est pas dans 10 ans, hein, c'est très rapidement, parce que c'est déjà ce qui s'est passé. Vous savez, c'est toujours le même modèle. Google ou Facebook, etc., au début, ils ouvrent leurs algorithmes pour que tout le monde vienne. Et puis, une fois qu'ils ont atteint la masse critique nécessaire, ben derrière, ils vous disent « Ah ben, si vous voulez être plus exposé que les autres, là, vous devez payer. » Et c'est cette logique-là qui va s'appliquer sur celle, justement, de l'article 13, vous savez, qui était sur les droits de citation, de, par exemple, reprendre une photo dont quelqu'un d'autre détiendrait les droits d'auteur. Mais même chose, qu'est-ce qui va se passer ? Les plateformes américaines, elles vont faire comme avec la RGPD. Elles vont fermer sur les contenus européens. Et après, on se plaindra qu'il n'y a que des contenus américains et des contenus asiatiques. Parce que là où je vous rejoins, c'est que malheureusement, l'Europe n'a pas construit de géant du numérique. Et que je suis d'accord, moi, je défends parfaitement la logique du droit d'auteur. Malheureusement, je pense qu'il faut se donner les moyens réels de défendre, de les défendre, et pas uniquement quelque chose qui relève un peu de la naïveté et surtout du très mauvais calcul.
Audrey Coutard, vous diriez que c'est un combat perdu, comme semble l'avancer Jean-Sébastien.
Je ne dis pas que c'est un combat perdu. Non. Je vous dis que là, la manière dont on s'y est pris est très naïve.
On n'est pas armé pour faire fond.
Mais on est
ne sait pas donner les moyens.
On est très armé. Le truc, c'est que pour l'instant, on se place comme des perdants face à des géants Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les géants ont besoin de nous, ont besoin des créateurs, ont besoin pour fonctionner, si vous voulez, d'avoir des créateurs, des auteurs, etc. Et à l'heure actuelle, je reprends un terme que j'ai entendu, une phrase que j'ai entendue chez vous d'ailleurs sur la radio, un de vos interlocuteurs disait, mais en fait, ces GAFA, ils fonctionnent comme des voleurs de voitures qui voleraient la voiture et casseraient le moteur. Le moteur, c'est la création. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas fonctionner, vous ne pouvez pas être un GAFA si vous n'avez pas du contenu chez qui vous
procédez. C'est quand même très compliqué, etc.
Parce qu'il y a une utilisation dans les réseaux sociaux.
C'est qu'à l'arrivée, ils vont faire payer. C'est-à-dire, ils vont fermer
et faire
payer.
Mais quand on parle de Facebook, quand on voit que Facebook et Google...
La question est la modestie.
Ce sont des particuliers qui ont l'air faux.
Il faut voir déjà que Facebook et Google captent déjà environ 75% des investissements publicitaires en ligne avant même qu'il y ait eu la moindre discussion, etc. De toute façon, déjà, c'est eux qui prennent leur
argent. Vous voyez bien que ça renvoie aussi à quelque chose d'autre, parce qu'on est tous des consommateurs. Qui, ici, va dire qu'il paierait à chaque fois qu'il va regarder une vidéo sur YouTube?
Quand on va relayer un papier de libération...
Oui, mais il y a une hypocrisie monstrueuse. Pardon, moi aussi, je suis libéral, et je considère qu'au-delà de la question des droits d'auteur, il y a la question réelle de ce que chacun d'entre nous avons comme comportement. Parce que quand ça nous arrange de ne pas payer, on veut bien que ce soit les GAFA.
Mais à la base, il faut créer le cadre. Et c'est une façon de créer le cadre.
Le mauvais.
Et après...
Nicolas Bouzou, nous manquons de champions en Europe.
Allez, ça, c'est le drame de l'Europe. Mais ça, on va le payer très longtemps. Oui, non, mais d'accord, mais c'est drôle parce que vous parlez tous en économiste et moi en philosophe. Évidemment, cette histoire, les GAFA sont américains, les BATX sont chinois et nous n'avons rien. C'est dramatique, nous allons sortir de l'histoire à cause de ça. Donc derrière ça, vous avez des vraies raisons économiques, manque de financement, on n'a pas fait l'Europe de l'intelligence artificielle et du numérique, on n'a pas un grand marché européen. Il faut vite le faire, il est peut-être pas encore trop tard. Mais enfin... Alors, je reviens à ma position philosophique. Il y a quand même des principes intangibles. Je suis attaché au droit de propriété, même si c'est difficile à faire respecter.
Et ce sera le mot de la fin. Merci Nicolas Bouzou. Merci Audrey Goutard. Merci également à Marie-Virginie Klein et Jean-Sébastien Ferjou. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir pour une toute nouvelle édition des Informés de France Info. Merci, bonsoir.